One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, salut amis auditeurs, émission de février, quatre émissions qu'on va faire ensemble parce qu'on est nombreux, enfin ça fait un petit moment qu'on n'a pas été aussi nombreux dans le studio, on est cinq aujourd'hui et Ghislain, ça te pose pas un problème, on n'est pas à parité?
Oui, c'est vrai. On avait l'habitude d'être beaucoup plus de garçons que de filles, mais là, ça change et je suis un peu mal à l'aise sur ma chaise.
Ouais, mais bon, ça va venir. Puisque, donc, Ghislain est là, mais il y a aussi Ariane, évidemment.
Mais
on a aussi avec nous Paola et Annie, qu'on est ravis.
Ils ont sorti de la vieille du placard pour l'aérer un peu.
On a besoin de la vieille, elle est toujours là.
Et ouais, elle est toujours là, elle est précieuse.
Toujours aussi méchante d'ailleurs.
Bah, tu vas en faire la preuve, j'imagine, dans les minutes qui viennent. Pourquoi vous êtes là? Tout simplement parce qu'on avait envie de se coltiner le thème de la transmission. Et à toute maîtresse, tout honneur, on s'est dit qu'on allait vous convier pour ça. La transmission, tout simplement parce que
C'est une émission sur la mécanique.
Sur les maladies.
Tu veux dire la courroie de transmission?
Bah, c'est le seul truc que je connaisse.
C'est vrai, mécanique. Non mais tu plaisantes, Ghislain. Le seul truc que tu connaisses en mécanique, oui, ouais. C'est ça. Non, la transmission de la culture, d'un certain... Ouais, d'une culture, en l'occurrence, homo, gay, lesbienne. Et alors, on s'est dit, aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça se passe pour de jeunes gays, de jeunes lesbiennes? Comment accèdent-ils à une culture homosexuelle? Par quel biais? Donc on a posé la question à Ariane, qui était la plus jeune d'entre nous. Et Ariane, tu nous as répondu...
Mais par Internet.
Par Internet. Ouais, c'était évident pour toi?
Non, d'abord, moi j'ai commencé par dire qu'il y a du passage entre personnes bien physiques, pas dans le virtuel. Mm-hmm. Moi, les premiers supports de représentation, les premiers supports culturels lesbiens auxquels j'ai eu accès, c'est ma première copine qui m'a fait lire, voilà. Mm-hmm.
Qui t'a fait lire, donc
Oui, j'ose pas dire le titre, qui m'a fait lire Les Amis d'Héloïse et de mon père.
Voilà. Pourquoi tu n'oses pas?
Parce que j'attendais les réactions de mes voisines.
Et elle a peur de se faire taper.
Non, c'est de la très bonne littérature.
Alors, du coup, on s'est dit qu'on allait construire... Alors, parce qu'effectivement, Internet joue un rôle essentiel. On y reviendra la semaine prochaine et la semaine suivante. Mais avant tout, on avait envie aussi, quelque part, de se faire plaisir et de se faire partager les uns les autres des découvertes qui ont été marquantes pour nous. Donc, on s'est dit qu'on allait passer par le biais de la culture plus traditionnelle, de la littérature notamment. Et on s'est dit qu'on allait choisir les uns les autres un extrait d'œuvres qui ont été assez essentielles pour nous, qu'on allait les lire et faire une sorte de, comme on l'a fait pour la musique, de blind test. Donc chacun va lire.
En braille donc.
En braille?
Bah oui, un test à l'aveugle, voilà, de lecture. C'était la blague de Ghislain, je vais voler, je suis désolée.
Je voulais revenir sur la thématique de l'émission parce que
Paola,
j'ai beaucoup insisté, je trouvais que c'était intéressant parce que autant la sexualité, on sait comment on l'attrape, on l'attrape en faisant, on l'attrape comme on peut. Mm-hmm. Autant s'il y a culture gay, c'est-à-dire s'il y a culture homosexuelle, comment on l'attrape? Et dans mon à mon époque où les exemples étaient peu nombreux autour de moi, on disait on l'attrape de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on l'attrape par initiation, par phénomène d'initiation, et voilà, et c'est les uns qui passent aux autres, de génération en génération, mais aussi entre générations. Voilà, donc de bouche à oreille, et ben bien sûr le support essentiel à mon époque en tout cas c'était les livres. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, et peut-être ce sera la conclusion, mais ça, c'est encore trop tôt pour le dire.
On verra, n'anticipons
pas. Effectivement, tout outil qu'il y a, même très efficace, le passage de personne à personne, c'est encore le mode de transmission de l'homosexualité la plus efficace.
Mmh. Tu veux commencer, Paola? Moi, Ghislain a quelque chose à dire.
Non, je disais, et toi alors, donc, par quoi tu as commencé?
Alors, moi, je vous propose... On lance un petit jingle et puis moi je propose que tu commences, Paola, si tu veux bien.
Allez.
C'est parti.
SLP, la émission.
Alors, un premier extrait d'abord. Bien sûr, si vous découvrez qui c'est, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Alors, en sachant qu'Annie ne m'arrête pas trop vite, parce que je ne sais pas si je ne te l'ai pas passé ce bouquin quand même.
Je peux gagner quelque chose, hein?
Non, rien du tout.
Donc, moi, c'est pas JTVP, ouais. Là.
Stéphanie de Monaco, non?
Moi, je propose qu'on te laisse lire quand même, sauf voilà, si certains d'entre nous devinent, ils peuvent dire « je sais », mais on ne perturbe pas plus que ça.
D'accord.
Voilà, okay. En plus, c'est pour moi, c'est un message personnel.
Allez, j'y vais. La nécessité contraignit Justine à faire des séances de pause à tant de l'heure pour les étudiants aux beaux-arts de l'atelier. Cléa, qui ne la connaissait que par ouï dire, traversa un jour la longue salle où elle posait et, frappée par la sombre beauté alexandrine de son visage, l'engagea pour faire son portrait. C'est ainsi que ces longues conversations s'élaborèrent dans les silences du peintre, car Cléa aimait que ses modèles parlent sans retenue, pourvu qu'ils ne bougent pas. Cela donnait à leurs traits une vie sous-marine et enrichissait leur regard d'interprétation consciente de leur pensée. La vraie beauté de la chair qui sans cela ne serait que chair morte. Une idée venait de se faire jour dans l'esprit de Cléa, mais n'avait pas encore atteint ses lèvres. Et puis doucement, ses lèvres s'étaient posées là où aurait dû se poser le pinceau humide de l'artiste, comme cela est innocent. Les gants noirs que Justine portait laissaient à découvert un petit coin de peau nue quand ils étaient boutonnés, en forme de cœur. Et cet innocent, ridicule baiser ne traduisait qu'admiration et pitié pour ce que lui disait Justine de la perte de son enfant. Cléa prit la main et déposa un baiser sur l'échancrure du gant noir en forme de cœur. C'est l'enfant, la mère qu'elle embrassait réellement. Son innocence projetée par le courant de cette terrible sympathie, la forme ardente d'un amour stérile. Le geste en soi n'était qu'une gauche tentative de s'approprier le mystère de l'existence authentique. De même qu'en touchant un saint homme, le suppliant espère que s'opérera un transfert de la grâce qui lui fait défaut. Le baiser n'attendait absolument pas une réponse sous la forme d'un autre baiser, ne souhaitant pas se copier comme le reflet d'un éphémère dans un miroir. Ce geste eût été trop onéreux s'il avait été prémédité, ce qu'il se trouva être en fin de compte. Le corps de Cléa luttait tout simplement pour libérer son innocence, de même qu'un bébé ou une statue s'efforce de se dégager de l'emprise des doigts ou du forceps de son auteur. Sa faillite fut celle de l'extrême jeunesse, celle de Justine, d'une femme sans âge. Son innocence était sans défense, comme la mémoire même. Elle qui ne cherchait qu'à saisir et n'admirer que la sincérité du chagrin de Justine, se trouva seule aux prises avec l'acide le plus corrosif d'un amour qu'elle n'avait pas sollicité. Elle était « blanche de cœur », pour employer la formule arabe si expressive. Et tandis qu'elle peignait le hâle du visage et des épaules de Justine, elle eut soudain l'impression que, touche après touche, le pinceau lui-même s'est mis à imiter des caresses qu'elle n'avait pas prévues, ni même imaginées qu'on pût en oser. Et tout en prêtant l'oreille à cette voix profonde et bien timbrée qui faisait le récit de ses infortunes, si désirable en ce qu'elle appartenait au monde actif et vivant de l'expérience, elle retenait son souffle et essayait de se concentrer sur les signes inconscients de bonne éducation chez son modèle, main immobile sur les genoux, voix basse, réserve qui dénote la vraie puissance. Cléa était trop noble pour aimer autrement que passionnément. Le fleuve calme et profond de son cœur amoncelait ses images et les faisait se refléter dans le courant rapide, s'enfoncer dans le souvenir plus profondément que la plupart d'entre nous. La véritable innocence ne peut rien faire de commun, et quand elle se trouva alliée à la générosité du cœur, la combinaison forme une des qualités les plus vulnérables du monde. Dans cette soudaine et dévorante expérience, comparable dans sa tension et son ardeur à ces ridicules passions que les écolières éprouvent pour leur maîtresse, mais où venaient s'ajouter comme en surimpression les lignes aux traits âpres et mûres de la nature, elle éprouvait vraiment les douleurs grandissantes de la vieillesse, sa chair et son esprit flétrissés devant des exigences qu'elle se sentait incapable d'affronter, qui les déchiraient et les réduisaient à néant. La pauvre, elle allait passer par les mêmes ridicules contorsions que nous tous, sentir son corps comme un lit de chaux vive maladroitement gâché pour consumer le cadavre du criminel qu'elle recouvrait. L'univers de rendez-vous secrets, de désirs qui rongent comme un fer rouge, de doutes, tout cela fondit brusquement sur elle. Si grande était la confusion de son esprit qu'elle s'asseyait et contemplait cette Justine métamorphosée en essayant de se rappeler quel était son véritable visage de l'autre côté de la membrane transfigurante, la cataracte dont se sert Aphrodite pour céder les yeux des amants, la forme épaisse, opaque, d'une cécité sacrée. Elle vivait dans la fièvre tout le jour, jusqu'à l'heure où son modèle venait reprendre la pose. Alors cette idée lui traversait l'esprit, mon Dieu, faites qu'elle ne vienne pas, qu'elle soit malade, qu'elle soit partie. Comme je voudrais que cela me soit égal. Idée qui la surprenait aussi, car ses dégoûts lui venaient précisément aux instants même où le désir montait en elle, irrésistible, d'entendre une fois encore sa belle voix rauque et contempler sa bien-aimée. D'autres fois, elle aurait voulu fuir simplement pour appartenir plus totalement à son amie. Pauvre folle, pas une chimère ne lui fut épargnée sur la longue liste que comporte une affaire de cœur. Elle essaya de recouvrir à d'autres plaisirs, pour découvrir qu'il n'en existait point. Elle savait que le cœur se lasse de la monotonie, que l'habitude et le désespoir sont les compagnons ordinaires de l'amour, et elle attendait patiemment, comme pourrait le faire une très vieille femme, que la chair ne réponde plus aux sollicitations de l'imagination, qu'elle soit délivrée d'un attachement dont elle reconnaissait maintenant qu'elle ne le recherchait pas. Vaine attente. Chaque jour, elle s'enfonçait plus avant. Mais tout cela, en tout cas, eut le précieux mérite de lui enseigner que des liens de cet ordre ne répondaient pas aux besoins de sa nature. De même qu'un homme sait dès les premières heures qu'il n'a pas épousé la femme qui lui convenait, mais qu'il n'y a rien à faire. Elle sut enfin qu'elle était une femme et qu'elle appartenait aux hommes, et ce lui fut une futile consolation pour son malheur. Personne l'a trouvé, hein ?
Non,
non.
Tout séché, là.
Bah oui, c'est normal, hein, parce que j'ai l'impression que je suis la seule à avoir lu ce truc-là.
Donc, tu l'as pas reconnu.
C'est une œuvre assez extraordinaire qui tient super la route encore. J'ai replongé après des années ce dimanche et ça tient encore super la route. Et ça a été écrit pas loin d'ici, figure-toi.
Ah bon ?
Ouais, à Sommières.
Ah bon ?
Quel est le grand auteur anglais qui a fini ses jours à Sommières ? Allez, Annie, toi, tu dois le savoir.
Bah, pourquoi pas ? Vas-y, mais c'est le droit de jouer.
Demande.
Ça a été écrit en 1955. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Balthazar. Et c'est le deuxième roman du Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Vous connaissez ?
Bah, Laurence Durel, oui. Mais voilà, bah, effectivement, moi, je ne savais pas qu'il avait fini sa vie à Sommières.
Bah ouais, bien sûr, il était juste à côté de Montpellier. Il a fini. Bah, il a fini en rédigeant le Quatuor d'Avignon. Tout aussi épuisant comme lecture, un peu moins intéressant à mon avis. Et ça, c'est vraiment le Quatuor d'Alexandrie, ça a été une de mes lectures des 20 ans. Et à travers ce foisonnement de personnages, c'est un truc assez extraordinaire. Ça fait presque penser à Proust par moment. Et ben, il y a une histoire d'amour entre femmes. Et moi qui étais dans qu'est-ce que je cherchais dans tous ces livres et tous ces mots, j'ai découvert par petites bribes qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Voilà. Et d'accord. Ça a été une des premières histoires d'amour entre femmes que j'ai pu aborder, en sachant bien sûr qu'elle est très brève et qu'elle se finit mal pour l'histoire d'amour entre femmes, bien sûr.
Et tu, en commençant le livre, tu ne savais pas que tu allais
pas
découvrir ça ?
Non, c'était de la pure littérature. Mmh. Non, bien sûr. Voilà, et ça c'est une grande tendance, alors peut-être à ma génération aussi, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il existait un espèce de souterrain d'histoire homosexuelle à travers la littérature classique, à travers tous les livres que je lisais. J'étais quelquefois à la recherche de quelque chose et parfois j'avais de bonnes surprises. Par contre, les auteurs gays, je ne les connaissais pas.
Parce
en tout
que
cas féminin.
Il n'y avait pas d'étiquette d'auteur gay, il n'y avait pas de nom mis sur les œuvres. Donc, le fil conducteur était vraiment soit du hasard, soit de la prospection ou de l'introspection.
Alors, il fallait aller vers la littérature un peu sulfureuse parce que c'est aussi
là-dedans
qu'on fait ce genre de découverte.
Ouais, c'est par Henry Miller,
Oui.
Henri Miller, beaucoup, tout lu. Mmh. Anaïs Nin, mmh. par filiation. Et puis, il parlait beaucoup de Durel. C'était son ami. Donc, j'ai abordé Durel comme ça. Et tu vois, voilà, c'est par cette filiation aussi littéraire, je dirais, que je pense que quand on découvre un peu une culture homo, c'est un peu comme ça que ça se fait. C'est de l'un à l'autre. Ça, c'est un truc qui s'attache. Mmh. C'est ce lien-là qui est à la fois précieux et très à la fois personnel et très collectif aussi, puisque une fois qu'on a trouvé la bonne ficelle, on la tire et
on déroule la pelote.
Ouais.
Une petite jingle, et puis à qui le tour, Ghislain ? Ghislain, oh oui, ce porte-volontaire. SLP, pouh, ça calme.
Ça, c'était bien.
Bon, Ghislain, c'est ton tour.
Allez, d'accord. Alors moi, c'est... Bon, vous verrez après.
Et si on trouve, on a le droit de le dire.
Ouais, ça m'ennuierait, mais... mais toi, tu vas trouver, tu fais chier. Parce que
non, mais en plus, on...
En plus, oui, d'accord, ok. C'est nul, hein.
Moi, j'ai pris soin de cacher la couverture, quand même. Hein.
Moi, j'ai pas eu le temps, je travaille, moi, monsieur.
Ok, on dirait qu'on n'a rien vu.
L'aurore n'est pas rose, mais elle est bien chaude, et dans les bois, elle est vraiment ainsi. On a dit un jour que les bois sont le manteau du pauvre. Et c'est vrai, là, dans les bois, la pluie ne perce pas, le soleil ne perce pas, la neige ne perce pas, la poussière ne perce pas. Il doit se passer beaucoup de choses avant que dans un bois épais ça perce. Et c'était ainsi, et Rose put alors savoir que c'était ainsi si tôt le matin avant qu'il n'y ait un matin. Et Rose commença à penser à chanter, elle pensa que ce serait tellement agréable de chanter là dans les bois où il n'y avait que des arbres et rien. Peut-être des rochers et des feuilles et des noix et des champignons, mais vraiment rien, et peut-être qu'elle aimerait se mettre à chanter, chanter avec sa chaise bleue. Et alors elle pensa bien sûr que cela se passait toujours ainsi, dès qu'elle se mettait à chanter, elle se mettait à pleurer, et si elle se mettait à pleurer, eh bien quoi qu'elle fasse, quand elle se mettait à chanter, elle se mettait à pleurer. Et alors là, elle était dans les bois. On disait que les bois étaient une couverture. Et elle avait sa chaise bleue et elle devait penser à chaque chose, sauf si elle se mettait à chanter ou si elle se mettait à dire quelque chose. Bon, quand on est toute seule, seule dans les bois, même si les bois sont merveilleux et chauds, et s'il y a une grande chaise bleue qui ne peut jamais faire de mal, même ainsi, si on entend sa propre voix chanter ou même simplement parler, eh bien on entend dans n'importe quoi, même si tout cela est à soi comme sa propre voix, et on est toute seule et on entend sa propre voix, alors ça fait peur.
Oh. Wow. C'est pas Rose is a Rose is a Rose
si,
is a
Rose,
Rose
is a Rose. Oh, oui.
Gertrude.
C'est Gertrude Stein.
Ou non, tu dis Gertrude.
Toi. Moi j'ai dit Gertrude. Gertrude Stein, le monde est rond.
Si.
Voilà. Et en fait, je savais pas du tout qu'elle était homo cette dame.
c'est parce que tu avais jamais vu sa photo peut-être.
Bien, ça.
Si, elle ressemble à Paola en fait.
Exactement.
Oh, les insolents.
Oui, en fait, j'ai découvert ça en travaillant.
J'ai un livre
dessus,
de cuisine
en fait.
De sa compagne qui s'appelait Alistoclas, qui a toujours été d'ailleurs. C'est pas super bien comporté avec elle d'ailleurs.
Non,
c'était un peu sa boniche. Hein, passons. Oui. Comme souvent, quand il y a de la femme forte derrière, il y a de la boniche. Décidément, les femmes sont pas meilleures que les hommes.
Enfin, certaines.
Tu fais allusion à Yourcenar, là ?
Pas spécialement, mais oui, peut-être bien, ouais, peut-être bien. Mais on l'avait utilisé, tu te rappelles, ça, on avait fait tout un portrait sur Gertrude Stein, et on avait utilisé un autre extrait de Rose et Rose.
Il est beau, ce livre, alors.
Ouais, il est magnifique.
C'est un livre qui est fait pour être dit.
Ouais.
Oui, mais beaucoup de textes de Gertrude Stein, en fait, il faut les dire, parce que c'est effectivement c'est hyper sonore, c'est très musical.
Parce que peut-être elle est allemande.
elle est américaine.
En plus, elle est américaine.
Ouais.
Elle a fait les ambulances pendant la guerre.
Oui, résistante, hein, Gertrude Stein. Oui, une héroïne qui a traversé le 20e siècle.
Beaucoup acheté de peinture de cette époque. Ouais, sacrée, une sacrée bonne femme.
Pause musicale et puis on revient pour d'autres extraits. We'll be right back.
choose in the end, it's like a default. You thought you'd made the grade, all you made would start to fade. We threw it in the fire, it's better that it not be made. You just run together, didn't seem to have the heart. Wheels are coming off now, knew that it would fall apart. Take one for the team, you're a cog in the machine, it's like a default. It's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out. Forget about the cause, press rewind and stop and pause. It's like a default.
Ben. Ça, comment
mais qu'est-ce que c'était ce bordel?
Ah ben ça, c'était de la musique. C'est un groupe qui s'appelle Django Django. Et ça s'appelle Default.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Ah, mais on perd super. Pas de temps, on se dépêche. C'est super, Annie, hein, t'es d'accord? Ariane, à toi de lire, puisque voilà, faut pas qu'on perde de temps, parce qu'une demi-heure, ça passe très très vite, donc c'est à toi.
Je ne m'intéresse pas à mes émotions en tant que
Virginie Despentes.
On continue, ne te laisse pas perturber.
Je ne m'intéresse pas à mes émotions en tant que mienne, n'appartenant qu'à moi et uniquement à moi. Je n'étudie pas ici ce qu'il y a d'individuel entre elles, mais plutôt ce qui est externe et vient les traverser. Ce qui émane de l'histoire de la planète, de l'évolution des espèces vivantes, des flux économiques, des résidus, des innovations technologiques, de la préparation des guerres, du trafic des esclaves et des marchandises, de la production de hiérarchies, des institutions pénitentiaires et de répression, des réseaux de communication et de surveillance, des imbrications aléatoires, des techniques et des groupes d'opinion, de la transformation biochimique de la sensibilité, de la production et de la diffusion d'images pornographiques. Certains liront ce texte comme un manuel de bioterrorisme du genre à l'échelle moléculaire, d'autres y verront un simple point dans une cartographie de l'extinction. Le lecteur ne trouvera pas ici de conclusion définitive sur la vérité de mon sexe, ni d'oracle sur le monde à venir. Je donne à lire ces pages qui relatent des croisements de théories, molécules et affects pour laisser trace d'une expérience politique dont la durée exacte a été de 236 jours et nuits et qui continue aujourd'hui sous d'autres formes. Si le lecteur trouve ici, assemblé sans solution de continuité, des réflexions philosophiques, récits de séances d'administration d'hormones et registres détaillés de pratiques sexuelles, c'est simplement parce que c'est le mode sur lequel se construit et se déconstruit la subjectivité.
Virginie Despentes.
Mais... Alors, je suis gentille. Ah, bien. Non. Presque. Alors, je vous lis ce que j'ai sauté, ce qui vient juste avant. Ça, vous allez comprendre tout de suite.
Oui.
Ce livre n'est pas une autofiction. Il s'agit d'un protocole d'intoxication volontaire à base de testostérone synthétique concernant le corps et les affects de BP. Un essai corporel, une fiction, c'est certain. S'il fallait pousser les choses à l'extrême, une fiction autopolitique ou une autothéorie. Pendant le temps que dure cet essai, deux mutations externes se succèdent dans le contexte environnant le corps expérimental, dont l'impact n'a pu être calculé au préalable et qui ne peuvent être prises en compte comme faisant partie de l'étude, mais qui constituent les limites autour desquelles s'agrège l'écriture. Premièrement, la mort de GD, vous savez qui c'est les garçons, condensé humain d'une époque qui s'efface, idole et ultime représentant français d'une forme d'insurrection sexuelle par l'écriture, et quasi simultanément le tropisme du corps de BP vers le corps de VD. impérative occasion de perfection et de ruine. Sont consignées ici aussi bien les micromutations physiologiques et politiques provoquées par la testostérone dans le corps de BP que les modifications théoriques et physiques suscitées dans ce corps par la perte, le désir, l'exaltation, l'échec ou le renoncement.
Bon, et alors tu l'as rencontré comment, Virginie Despentes ?
Mais c'est pas Virginie Despentes, puisque c'est BP qui est attiré par Virginie Despentes.
Ah, c'est BP. Donc...
Testo Junkie.
Bravo !
Donc Béatrice Preciado.
Béatrice Preciado, BP. C'est pas British Petroleum.
Testo Junkie.
Voilà.
Bon, elle écrit très bien, cette jeune fille.
C'est que le tout début. Et donc, c'est vrai que ça annonce très bien ce qui suit, puisque après, c'est une alternance de parties où elle
partie
raconte...
fine et moins fine.
Ah oui, non, mais le premier truc que je voulais vous lire, ça s'appelle Vidéo Pénétration, si tu veux.
Ouais.
Voilà. Et donc, le personnage qui meurt au début, vous avez deviné qui c'était ?
Pas du tout.
Non.
Moi, je vous le dis pas.
Bon, d'accord.
Non, mais par contre, moi...
C'était Guillaume Dustin.
Guillaume Dustin,
ah oui, évidemment. Oui.
Hmm. Ah, j'ai des...
Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que... comment ce bouquin t'est arrivé entre les mains ? Parce que là, pour le coup, il y a un clivage générationnel important avec ce que nous a lu tout à l'heure Paola.
Oui, évidemment, il faut toujours qu'elle se la joue, je suis hyper moderne. Moi aussi, je peux lire des choses qui ont été écrites avant-hier.
C'est comment je suis tombée dessus ? Alors d'abord, oui. La première
fois... En deux minutes, hein, il reste deux minutes.
La première fois, c'était par les méandres d'Amazon. Ça a été un conseil, voilà. Et comme c'était un bouquin qui faisait un prix un peu, voilà, et que ça me disait... Enfin, ça me parlait pas. Au début, je voyais pas qui c'était, ni... J'ai laissé dans le panier sans le valider pendant très longtemps. Et puis, y a un mec super farfelu qui m'en a reparlé.
Un mec super farfelu, c'est-à-dire ?
Un doudingue. Qui n'a
que
peu
amis.
À voir, à... oui, plus ou moins.
De tes connaissances.
Voilà. Qui m'a dit, il faut absolument que tu lises ça, c'est bouleversant, c'est énorme, ça va te retourner, tu vas adorer. Et comme il est quand même... voilà, ça n'a pas levé tous les freins. Et en fait, on me l'a offert.
Et qui te l'a offert, si c'est pas
quelqu'un
discret.
Qui est déjà venu à ce micro, je n'en dirai pas plus.
D'accord.
Okay. Bon, c'est toujours
c'est
très
bien.
Mystérieux. Alors moi, ce que
ouais,
je... surtout
bien.
Mystérieux
Est-ce
dans son, c'est le j'ai pas validé le panier.
Ouais, parce que
tu vois, là, on se sent très très vieille. Ouais. J'ai pas validé le panier, dit-elle. Non, mais ça veut dire quoi ? Nous, on le prenait, on l'achetait ou on l'achetait pas. Mais on validait pas le panier.
Là, c'est tu le mets dans ton panier et en fait, tu réfléchis.
Ouais.
Puis après,
ouais,
tu dis non, je veux pas et tu le reposes dans le
J'aime
rayon.
J'aime pas le panier.
Non, même
virtuel.
Pas, tu peux le laisser. Enfin voilà, et on te le repropose
non, mais
quand il est en promo.
Comme si elle était
tout.
Dans une librairie.
Chez Gibert,
si
qu'il peut y avoir des livres d'occasion, ça coûte moins cher.
On l'a offert en fait.
De valider le panier.
Voilà, chez Gibert, t'as pas besoin de le valider, le panier, il suffit de le porter. Tu l'amènes à la caisse et puis voilà, tout se passe bien. On reparlera du panier internet.
Ouais, moi j'aime bien le concept en tant qu'avare, je validerai jamais mon panier.
où tu trouves une carte bancaire
Donc quand même pour
autre.
Celles qui ne savent pas, Preciado couche avec des pentes. Hein,
oui mais
attends,
nos auditeurs
non, parce
le
que
savent
et tout
Paola.
Le monde le sait pas. Non,
mais nos
pas
auditeurs
parce
le savent.
Il y en a deux et demi qui nous écoutent que tout le monde connaît.
Elle a des poils au menton.
La minute people de SFP pour conclure cette première émission sur la transmission. Et nous reviendrons la semaine prochaine. Salut amis auditeurs.
Au revoir.
Au revoir.